Mort d'un immortel par Sinclair Lewis. Je m'étais rendu à Kenwith avec l'intention d'y passer tranquillement mes vacances d'été. Ma première année de professorat m'avait fatigué, et je voulais terminer la vie de Ben Jonson que j'écrivais. S'il est une rencontre dont je me serais passé, c'est bien celle d'un agonisant dans une chambre à l'atmosphère étouffante, et s'il m'est une lecture que je n'avais pas souhaitée, c'est bien celle de cette pile de carnets de notes griffonnées qui devait m'échoir. J'avais pris pension chez Mrs. Nickerson, dont le cottage au mur fait de galets gris-argent sommeillait parmi les peupliers de même teinte. Je n'entendais que le crissement métallique des sauterelles mêlé au grondement lointain du ressac, et je voyais par ma fenêtre l'herbe folle et soyeuse et les ailes d'un proche moulin à vent, tout en continuant à m'occuper de Ben Jonson. Je vivais aussi retiré et heureux que Henri Thoreau à Walden, où il cultivait son jardin avec un sentiment d'intense supériorité. Ma fiancée, Quinta Gates, sœur du professeur Gates, et plus adorable que jamais de par la culture raffinée que ses 37 ans lui ont acquise, Quinta, dis-je, me pressait de l'aller rejoindre à Fleet Harbor. Il est agréable de se trouver auprès de Quinta, encore que tous deux nous ne soyons pas enclins à nous embrasser, ni à demeurer main dans la main, ni à nous livrer à telles autres démonstrations absurdes du sentiment qui nous lie. Nous trouvons dans notre compagnie réciproque une source d'inspiration. Qu'il puisse exister des gens sensés, capables de retenir du mi-doigt féminin dans les leurs, dépasse mon entendement. Mais Fleet Harbor devait être bondé de ces effroyables jeunes estivants en pantalon de flanelle qui fredonnent leurs airs de jazz. Non. À la pensée de mon ample et champêtre liberté, je m'étirais d'aise, car j'entamais une studieuse période de ma vie où allaient se succéder sans heurts les jours et les nuits. Aussi sentis-je le rouge de la colère colorer mon front dans l'instant où j'entendis une voix cassée venue de l'antichambre minuscule qui disait « Puisqu'il est professeur, il faut que je le voie. » On toqua à ma porte, je feignis de n'avoir rien entendu. On récidiva désagréablement jusqu'à ce que je tenasse. « Oui, qu'y a-t-il ? » Je suis d'ordinaire, il me semble, une personne d'un naturel conciliant, mais je voulais donner l'impression d'être contrarié. Mrs. Nickerson fit irruption de ma retraite en glapissant. « Miss White de Lobster Port, Nick, désirerait vous voir. » Une femme à l'air pincé, qui devait ignorer jusqu'au mot de fantaisie, se faufila entre Mrs. Nickerson et la porte. Après quoi, elle se retourna vers son introductrice, la foudroya du regard, la jeta dehors et referma la porte. Je pus entendre Mrs. Nickerson protester. « Ça alors, c'est un peu fort. » Sans doute me levai-je et prononçai-je les paroles de civilité coutumière. En tout cas, je me souviens de la question que me posa avec une extraordinaire ferveur cette femme, Miss ou Mrs. White. « Êtes-vous professeur, monsieur ? J'enseigne l'anglais. Vous écrivez des livres ? Pour toute réponse, je désignai mon manuscrit. Dans ces conditions, nous sollicitons votre aide. Byron Sanders meurt. Il demande à avoir un érudit pour lui remettre des papiers importants. Probablement, mon attitude trahit-elle mes hésitations, car sa voix, je l'entends encore aujourd'hui, prit des inflexions stridentes. Je vous en supplie, venez, il va mourir. Lui, ce brave vieillard qui n'a jamais fait de mal à personne. Je tournai en rond dans ma chambre à la recherche de mon couvre-chef. Agacé par cette stupide expression de papier important, évocatrice du mélodrame classique, histoire de carte géographique où une croix marque l'emplacement d'un trésor enfoui, ou bien de documents depuis longtemps perdus qui prouvent que le petit saute-ruisseau est vraiment le fils de tel roi, jadis enlevé par des brigands. Mais ses inconscientes défenses contre l'expression combinatoire que je pouvais lire sur son visage et contre l'angoisse qu'il reflétait, affluèrent en vain en mon esprit. La femme observait tous mes gestes, et son impatience à m'attendre était flagrante. Je tapotais vaguement mon col et mes revers, au lieu de les brosser comme il se doit, pour en éliminer les vestiges de cendre ou de tabac. Et je la suivis d'un pas mal assuré, le souffle court. Elle marchait rapidement, tendue et silencieuse, avec votre serviteur sur les talons. Votre serviteur, hypnotisé par son corsage rouge et noir de guingan et son minuscule chapeau marron. Nous nous faufilâmes parmi les maisons grises du bourg, débouchâmes dans la campagne tranquille où luisaient les dernières lueurs du soir. Par un sentier qui coupait en deux un tapis de longues herbes marines, nous franchîmes un bras de mer où voltaient les chevaliers et où, sur les rides craquantes du sable, gambadaient de guingois des crabes de la variété dite fer à cheval. Nous traversâmes une lande jusqu'à un certain point de vue où le vent courbait les herbes, où l'odeur du sel prenait à la gorge, et d'où l'on distinguait les vagues du port mouchetées de blanc. En ce lieu inspiré, ma gêne craintive se dilua, et je ris presque en suivant le fil de mes pensées. Que signifie cette course errante digne d'un roman? Ah oui, la course au trésor caché. Je vais sans doute armer une flotte avec les 600 dollars que j'ai sur mon livret de caisse d'épargne et découvrir la fabuleuse caverne des pirates. Des papiers importants. À moi de prodiguer le suprême réconfort au vieux gentleman agonisant. Après quoi j'aurai le temps d'écrire une page avant le souper. Le port est enchanteur. Il faut absolument que cet été je fasse de la voile ou me baigne au moins une fois. Mon entrain, quelque peu freiné par la présence de cette femme apeurée aux pieds agiles, Bastia, quand nous nous enfonçâmes dans un marécage où fleurissaient les rêles et entrâmes dans un bois calme et surchauffé de pins agonisants. Agonisants, je vous le dis, comme le vieillard en question. Leur feuillage avait la couleur aride de la poussière de briques. Les aiguilles s'étaient amoncelées sur le sol en une couche épaisse qui craquait sous mes pas. Les troncs étaient maigres et noirs et portaient quelques branches pointues. Et dans la pénombre des divers sentiers, on éprouvait un certain malaise à respirer l'odeur poudreuse de la pourriture. Atmosphère surchauffée qui étouffait les sons, me chatouillait la gorge et engourdissait mes membres d'une irrémédiable langueur. Nous frayant notre voie entre ces troncs aux silhouettes lugubres et sur le monceau des aiguilles rousses, nous parvînmes à la barrière mal ajustée de l'enclos d'une antique maison dissymétrique, sombre et d'aspect maussade. Personne n'avait dû y rire depuis une éternité. Des rideaux aveuglaient les fenêtres. Le porche bas, installé dans l'angle fait par la façade de l'édifice principal et un appentis délabré, était encombré d'aiguilles de pin. Le pas de Mrs. White sonna étrangement clair sur les planches du perron rustique. La bonne femme m'ouvrit la porte pour moi. J'hésitais. Ce n'était plus le déplaisir et la contrariété qui m'habitaient désormais, mais la peur. Une peur dont j'ignorais la raison. Donc, dévoré par une inquiétude sans cause, j'entrai. Nous traversâmes un vestibule où s'entassaient maintes et maintes reliques maritimes de l'époque ancienne où le port de Kenwith avait la sympathie des voiliers. Une vertèbre de baleine, une défense de morse, un paravent chinois ou des pagodes peintes à la poudre d'or, presque effacées, se fondaient à demi sur un fond noir délavé. Nous escaladâmes un escalier étroit au haut duquel surgissait, telle une trappe secrète, le coin d'une mystérieuse chambre. Mon accompagnatrice ouvrit une porte du palier et gémit. C'est là. Je pénétrai lentement dans la pièce. Je ne puis affirmer aujourd'hui, après 2 années écoulées, quels sentiments m'agitèrent à ce moment précis, mais il me semble que je formais alors le dessein d'opérer une brusque sortie, de dévaler l'escalier et de me défendre avec l'ivoire du mort si j'étais attaqué. Attaqué par l'ennemi éventuel tapis dans l'ombre silencieuse de la chambre. Mais comme je faisais un second pas entre ces 4 murs, je respirais une odeur d'air confiné, de médicaments malodorants et de vieux linge. Les volets étaient tirés et la lumière éclairait chichement les lieux. Je ressentis un grand soulagement quand j'aperçus, étendu sur un lit à colonnes, un pitoyable vieillard au visage jauni comme un parchemin. Le terrible monstre affronté n'était rien d'autre que la maladie. J'ai su depuis que Byron Sanders avait alors 71 ans seulement, mais il en paraissait 90. Il était énorme, et le soigner ne devait pas être chose aisée. Massive, sous sa chemise de nuit reprisée, ses épaules avaient trop de puissance pour être tout entière couverte par un châle fait de morceaux et de pièces. Son cou était épais, et son crâne, avec sa calvitie luisante, d'une majesté olympienne, malgré l'approche de la Camarde. On avait vécu trop longtemps dans cette chambre, et elle contenait quantité d'objets hors d'usage, chaises branlantes, vêtements vrac, bouteilles graisseuses de médicaments, ainsi qu'un vaste bureau débordant de feuilles volantes et de livres ternis aux reliures tachetées de brun. Et parmi ce beau désordre, dont elle semblait faire partie tant elle était immobile, une autre femme dont la vue, quand je la distinguais, me fit sursauter. Qui elle était, Je ne l'ai jamais su. » L'homme se retourna péniblement dans son lit et me scruta du regard à travers la pénombre. « Vous êtes professeur ?» s'enquit-il, le souffle court. « Cela dépend de ce que vous entendez par ce mot, monsieur. J'enseigne l'anglais. Je ne suis pas... Vous vous y connaissez en matière de poésie, d'essais, de littérature, d'histoire. Oui, je pense. Eh bien, je suis en somme votre collègue. Byron... » Il s'interrompit, suffoqua d'une façon pénible à voir. La femme figée près du lit reprit vite lentement et s'approcha de lui pour lui essuyer les lèvres. Il put à nouveau parler. « Je m'appelle Byron Sanders. Pendant 40 ans, jusqu'à l'année dernière, j'ai dirigé le Canuit Bacon. » Écœurante vanité humaine, en cette heure solennelle où j'écoutais les instances d'un mourant, ma susceptibilité ne put s'empêcher de s'éveiller parce qu'il avait osé comparer mon érudition de bon aloi et la pauvreté intellectuelle qui préside à la rédaction d'une feuille de chou comme le Canuit Bacon, avec ses réclames de spécialités pharmaceutiques et ses deux colonnes filandreuses de nouvelles concernant la vache de John Brown ou la barque à fond plat de Jim White. M'ayant jugé favorablement du regard, Byron Sanders poursuivit. « Je n'en ai plus pour longtemps. Pas eu le temps de prendre mes dispositions. Mon mal a évolué trop vite. Je désire que vous preniez en main l'œuvre littéraire inédite de mon père. Ce n'était pas un homme de bien, mais il avait du génie. J'ai ici son manuscrit de pièces poétiques et ses lettres. Je ne les ai pas lues depuis longtemps, et il est trop tard pour que je les livre à la postérité. Je vous demande... » Il octa, l'agonie à la gorge. La femme pétrifiée s'approcha, me mit dans les mains une liasse de lettres et une pile de carnets de notes qui gisaient sur le lit. « Sortez maintenant, » me glissa-t-elle. « Dites oui et partez, c'est la fin. »« Acceptez-vous ?» gémit le géant terrassé. « Me demandez cela, à moi, un inconnu. » « Oui, c'est promis, je les ferai connaître à l'humanité, » marmonnai-je tandis que la femme me poussait vers la porte. Je dégringolai l'escalier, traversai en hâte le bois de pin roux, parvins au rayon promontoire battu par la bise du large. Naturellement, je ne doutais pas une seconde de ce que pouvait être la poésie de ce pauvre génie. Quatrain de mirliton et chansonnette où amour rimait avec toujours et cœur avec vainqueur. Pour parler franc, j'étais plein d'irritation. J'avais envie de restituer à Mr. Sanders la misérable littérature de feu son père, et c'était la seule chose impossible à faire. Pour une fois, j'agis avec bon sens, je l'emportai chez moi et tâchai de n'y plus penser. Au cours de la semaine suivante, dans le Canuit Bacon, que je découvris trônant sur l'album qui décorait la table du salon de Mrs. Nickerson, je lus que Byron Sanders, fondateur de notre journal et depuis de si nombreuses années, son très estimable rédacteur en chef, venait de s'éteindre. Je lui cherchai des parents, proches ou lointains, à qui remettre les élucubrations de son père. Il n'en existait pas. Sanders était veuf et mourait sans descendance. Des mois durant, ses manuscrits importants demeurèrent ensevelis au fond de mes tiroirs, à mon pupitre de l'université où je les avais emportés. Le premier jour des vacances de Noël, je me souvins tout à coup que je n'en avais pas lu un traître mot. Quinta Gates m'avait invité à venir chez elle pour le thé à 5h15, et c'est en savourant par avance les joies proches de sa sereine compagnie que, fatigué par le travail du trimestre et tout à trac, je m'assis pour jeter un coup d'œil au débordement littéraire de Jason Sanders. Il était alors 4h. 9h avait sonné quand une vague sensation de faim me ramena sur terre, entre mes quatre murs, auprès d'une cheminée refroidie. Au cours des 5 heures écoulées, je venais de découvrir un esprit de génie et sa poésie, dont je m'étais si abominablement gaussé, avait la splendeur de l'airain. Debout dans ma retraite solitaire, je déclamais mes stances en en écoutant la seule musique, puis je les déclamais encore sur un ton de défi. Dire qu'une exaltation intellectuelle m'habitait est une expression bien au-dessous de la vérité. Au diable, ma vie de Ben Jonson. Pourtant, elle avait eu tous mes soins, sa publication devant m'apporter la renommée. Mais un sentiment plus élevé avait pénétré mon âme avec la révérence que je nourrissais désormais pour Jason Sanders. Un sentiment qui s'apparente à la ferveur du créateur pour sa création, à la fierté du père devant sa progéniture. Certes, la faim me tenaillait passablement, mais je continuais à marcher de long en large sans en tenir compte. Tout me semblait irréel, et moi-même, et l'année 1918. Pendant des heures, je venais vraiment de vivre l'année 1850. Rien n'y manquait, manuscrits que personne n'avait touché depuis cette date et qui gardaient encore dans leurs rides la jeunesse d'un temps révolu depuis 70 ans. Un journal personnel, des daguerréotypes et des lettres, conservés intacts dans les ténèbres, signés de Poe, d'Emerson, de Thoreau, de Hawthorne et du jeune Tennyson. Le journal couvrait une période de 15 années avec des intermittences. Il était assez détaillé pour me permettre de reconstituer l'histoire de Jason Saunders, né à Kenwood en 1825, mort probablement en Grèce l'année 1853. Une lutte sinistre et incessante met aux prises le Cap Cod et l'océan. Ici et là, l'océan engloutit une ferme, ou bien un phare élevé sur une falaise, mais Kenwood, c'est la terre qui l'a emporté. De nos jours, on peut voir des basses sableuses et des chenaux somnolents là même, où il y a une centaine d'années, florissait un port en eau profonde où claquait une profusion de voiles marines, un port bourdonnant des villes nouvelles annoncées sur les quais, fiers de ses baleiniers rentrés de leurs interminables campagnes au large de la Sibérie et de sa flotte des Antilles, munificente dispensatrice du rhum, du sucre et de la peste. Le capitaine Bethuel Saunders, maître à bord et armateur du Sally S, se trouvait en mer entre Kenwood et Pernambouc qu'on naquit son enfant unique, Jason Saunders. Il ne rentra jamais au port. Dans chaque cimetière de la région du Cap Cod, toujours voisin du temple, il y a une 20aine de pierres tombales qui portent l'inscription « Péril en mer ». Il en est une, je le sais maintenant, pour Bethuel Saunders. Sa veuve, fille d'un serviteur du Tout-Puissant qui avait été pasteur à Truro pendant de longues années, était une femme d'ordre, d'efficience et de fermeté. Bethuel lui avait laissé de quoi vivre dans une honnête aisance. Elle consacra le reste de ses jours à tenir sa maison et à empêcher son fils de devenir marin. Elle ne voulait pas qu'il mourût comme son père était peut-être mort, seul, ayant refusé d'abandonner son brick brisé par la tempête. Leur cottage était propre et rébarbatif, aucune fenêtre ne regardait vers le port. Les femmes de marins n'appréciaient guère la vue sur la mer, car c'est là-bas que s'en allait leur robuste fils qui ne reviendrait peut-être pas. Donc, dans un cottage dont le mur bas faisant face à la mer était aveugle, vivait Mrs. Saunders qui aimait intensément son fils et le tenait dans ses jupes. Sa présence sévère obnubilait Jason. Elle était pour lui tout à la fois une mère, un père, une petite amie, un maître d'école, un tyran. Il lui caressait la joue, mais en même temps il craignait son œil noir qui le foudroyait quand elle le prenait en flagrant délit de mensonge. Dès les premières pages de son journal, à l'époque où il avait seulement 13 ans, Jason enrageait d'avoir à apprendre ses leçons, à rester comme une fille sous la surveillance maternelle, alors que ses condisciples croisaient déjà au large, sur les bancs de pêche, ou contemplaient en qualité de mousse les resplendissantes Açores. De son aïeul pasteur, il avait hérité un trésor de livres, Milton, Jeremy Taylor, Pope. Si, à leur retour, les jeunes loups de mer de son âge se moquaient de lui, il leur faisait mordre la poussière. Il devait être vigoureux et raisonnablement méchant. Il relate brièvement les circonstances dans lesquelles il roua de coups Peter Williams, le fils du révérend Abner Williams, jusqu'à ce qu'il ne pût presque plus bouger. À la suite de quoi, il fut mis en quarantaine et devint un solitaire, la brebis galeuse du village. Dès l'abord, il fut méprisé et traité de poule mouillée par ses camarades parce qu'il n'allait pas en mer. Redouté de leurs parents en raison de sa belle humeur batailleuse, en butte aux injures de son oncle Ira après son refus de devenir épicier, et gourmandé par sa mère sous prétexte qu'il n'avait pas la vocation du sacerdoce. Personne, semble-t-il, ne prit la peine de le comprendre. Lecture et solitude conjuguées le portèrent inévitablement à écrivailler. Par les après-midi frémouillés, si caractéristiques du Cap Cod, où bruissaient les herbes sur les dunes ourlées de jaune, il passait des heures assis, menton dans les mains, à suivre avec passion le jeu des petites vagues infatigables et des adorables voiles qui s'épanouissaient puis s'évanouissaient au gré du louvoiement des goélettes. Et durant les soirées, frémissant au rythme du ressac, il s'efforçait de trouver les mots capables de justifier et lui-même et son courage moqué. À 20 ans, il se sauva sur une goélette de pêche. Il avait beau avoir 20 ans et être vigoureux, sa mère le roussa quand il rentra au bercail. Apparemment, il se soumit. Voici le commentaire qu'il donna à ce propos dans son fameux journal. Mère m'a embrassé en manière de bienvenue. Puis, étant femme sujette à des caprices assez déplaisants pour un esprit masculin mesuré comme le mien, elle m'a arraché ma veste et m'a fouetté avec un fanon de baleine remarquablement aigu. Je n'irai jamais chasser la baleine, puisqu'un fragment aussi mince de cet animal peut faire si mal. Ayant procédé à ce règlement punitif, Mrs. Saunders, c'était une femme décidée et vigilante, maria immédiatement le jeune bandit à une voisine de 4 ans plus âgée que lui, fille fort convenable, pieuse et douée d'un manque absolu de fantaisie. De leur union devait naître un fils dans l'année qui suivit, ce Byron Saunders, le vieillard corpulent que j'avais vu mourir. La naissance avait lieu en 1847. Jason avait alors 22 ans. Il se fit engager comme commis, toujours rêvant, mais en vain, d'écrire difficilement de beaux vers, au grand magasin des pêcheurs. Il en fut congédié d'abord pour ivresse et insulte, et ensuite pour vol d'un couteau de 2 shillings. 5 ou 6 ans durant, il trima dans une voilerie. J'imagine qu'entre 2 coups d'aiguille dans la toile épaisse, il lisait quelques poèmes d'un petit livre caché parmi l'épine à hunier, et qu'il lui arrivait de graver sur un galet le plan de 3 avec la pointe d'un carlet. Renvoyé de temps à autre pour ses esclandres, on l'embauchait de nouveau, mais sans enthousiasme. Rien, dans mes dires, je l'espère, ne donne à penser que je tienne Jason pour un jeune homme de bien. Ce n'est point mon jugement. Il buvait du rhum de la Jamaïque, volait des fraises, se comportait vis-à-vis des filles du village de manière non recommandable, ni le moindrement recommandée, et son humeur était telle qu'il s'offrait à l'occasion une rixe avec des marins, et à intervalles réguliers, avec ou sans raison, battait comme plâtre Peter Williams, le fils du révérend Abner Williams. Il lui arriva même, en une certaine occasion, de faire montre d'une dépravation pire. Une certaine dame de Boston, épouse d'un négociant hautement estimé, vint passer l'été à Kenwith, précurseur en cela des hordes bruyantes de tennismen et de tenniswomen qui infestent maintenant la région du Cap et interrompent les méditations des professeurs adjoints. Ces dignes personnes avaient de la dilection pour la littérature et sans doute pour la musique et les arts. Elle découvrit que Jason était poète et voulut le patronner. En termes condescendants, elle lui enjoignit de se rendre chez elle le dimanche suivant, histoire de déclamer ses vers et de divertir ses cousins de Boston. En contrepartie, il aurait droit à 1 shilling et au relief du poulet rôti. « Je lui ai dit d'aller au diable. » Elle a paru décontenancée, note-t-il gravement dans son journal. Le plus drôle, c'est que 3 semaines plus tard, il prie à la bonne dame, chez qui il venait de tirer la sonnette, de lui accorder la faveur dont il avait fait fi. Avec le bon droit pour elle, relate-t-il sans commentaire, elle me montra la porte. Sa seule vertu était un courage de caractère belliqueux qui se manifesta de façon désinvolte vis-à-vis de sa femme et de son fils quand, 1 an après la mort de sa mère, il les abandonna et s'engagea pour la guerre de Crimée. Mais on comprendrait mieux sa conduite, je pense, en examinant à la loupe et d'un regard mélancolique, comme je l'ai fait, les daguerréotypes de Jason, de sa femme et de leur enfant. À 26 ou 27 ans, Jason a le nez droit et la lèvre ferme. Sur sa tempe droite retombe une boucle rebelle. Il porte le col à la mode, haut mais ouvert et ample, maintenu par un flot de dentelle en guise de cravate. Le long de la mâchoire, des favoris frisés qui rehaussent l'opiniâtreté du menton et du sourcil. Son habit est long et lourd, un habit à grand col et large revers, vêtement gênant s'il en est, mais qui, sur lui, tombe avec la grâce d'une pelisse. Quant à sa femme, dans ses yeux et sur sa bouche, nulle trace de gaieté, de sourire, encore que la vieille image laisse deviner qu'à l'occasion il devait savoir exprimer intensément la douleur et la prière passionnée. Leur enfant paraît petit et trapu. Quand je l'avais vu sur son lit de mourant, dans son logis du bois de pin, Byron Saunders m'avait semblé être un homme dévot et d'esprit ouvert. Mais à 6 ou 7 ans, il avait un visage comme une lune, et sans doute le hurlement facile. En tout cas, avec ou sans raison valable, Jason les abandonna de façon odieuse. En 1853, au début du conflit entre la Russie et la Turquie, qui devait dégénérer en une guerre des grandes puissances européennes, la guerre de Crimée, la Grèce projeta d'envahir la Turquie. Aussi, pour prévenir une alliance entre la Grèce et la Russie, les forces françaises et anglaises occupèrent-elles plus tard le Pirée. Mais dans l'intervalle, on avait cru la Grèce libérée. Le journal de Jason se termine sur cette note. Demain, je quitte ces lieux de sable et d'esprit ensablé. Embarque sur le bateau de pêche de la Mibers pour Long Island et de là pour New York. De New York, un navire me conduira au Pirée où j'offrirai ma vie pour la gloire de la Grèce et en mémoire de Lord Byron. Est-il mort plus enviable? Non. Et peut-être là-bas, quelque âme intelligente me comprendra. Dieu merci, mon aimable épouse ne sait rien de mon projet. Si d'aventure ce carnet tombe sous ses yeux, qu'elle m'accorde son pardon comme je lui accorde le mien. Un point c'est tout, hormis une coupure d'un numéro de la Lynmouth New Letter, plus vieux de 7 ans, faisant savoir que Mr. Jason Saunders, n'ayant pas donné signe de vie depuis sa disparition, sa veuve présumée introduisait une requête auprès du tribunal pour que celui-ci prononçât un jugement le déclarant légalement mort. Voilà la vie de Jason Saunders telle que son journal la révèle. Vie non pas authentique si l'on veut, mais vie qui palpitait dans ses écrits et que colorait le génie. Car 5 ans avant que Walt Whitman connût la faveur du public, il composait ce que nous appelons aujourd'hui des vers libres. On y découvre une parenté étrange avec la poésie diffuse dans l'œuvre de Annie Lowell. La beauté d'un jardin fouetté par un flux amer et celle d'une présence féminine fouettée elle aussi par les embruns constitue l'un de ses thèmes favoris et le poème brille de l'impitoyable éclat de la glace. Et puis les lettres. Jason avait adressé ses manuscrits aux grands écrivains de son temps. Rien que des réponses prudemment évasives. Le seul encouragement qu'il ait reçu venait d'Edgar Allan Poe, qui, l'année même de sa mort, en 1849, et au fond de son propre désespoir, lui faisait parvenir un message de sympathie. Vous portez en vous des dons et je vous affirme l'intime conviction que j'en ai. Cultivez-les et vous irez loin, si vous êtes capable d'endurer la haine et le dégoût, l'oubli et l'amertume, le mépris qu'on aura pour le meilleur de vous-même et pour vos faiblesses ou votre résignation, les louanges des mères de famille et de la gent féminine en général. Cette lettre fut le dernier écrit que je lus avant l'aube de Noël. Par le premier train, le lendemain de Noël, je descendis vers le Cap Cod déjà pris dans les griffes de l'hiver. Étant donné que Jason avait trouvé la mort 65 années plus tôt, personne, sauf les octogénaires, ne pouvait se souvenir de lui. Je découvris une femme de 86 ans dont, à part main et, quoi que vous dites, je ne peux rien tirer que la confidence suivante, Jesse Saunders y faisait même peur au serpent, l'a abandonné ceux de son sang. Voilà tout ce qu'il a été capable de faire. Des vers, lui, faire des vers, allons donc, tout juste bon à coups de déboile. J'entendis parler d'Abiathar Gould, 87 ans, personnage qui avait déjà sa légende, une légende souillée par le sang humain et la rouille des carènes. Il avait été naufrageur, et on l'avait soupçonné de faire échouer les navires en les leurrant à l'aide de pseudophares, et ce, aux fins de les piller en compagnie de bruyants acolytes. L'entreprise demandait un certain courage, et Gould n'avait pas craint d'affronter dans sa baleinière les houles creuses d'après la tempête, mais la miséricorde lui était inconnue. Il ne vivait pas qu'Inuit même, mais près de Judas Coles, sur une langue de sable, à 7 milles plus bas que Lobster Pot Neck. Comment aller le voir? Demandai-je à Mrs. Nicholson. Très simple, il suffisait de marcher. Oui, mais il me fallut marcher pendant 5 milles, au milieu de tourbillons de neige, en mâchonnant des grains de sable. Je jurai avec une facilité surprenante et me promis de ne plus fumer et de m'adonner à la gymnastique suédoise, histoire de retrouver mon souffle. Je portais le manteau en raton laveur de Mrs. Aaron Bloomer, le cache-nez en flanelle grise de Mrs. Nickerson, les bottes de pêche de David Hill et les mitaines en flanelle rouge de Mrs. Antonia Sparrow. Mais grâce au Dieu, les lunettes étaient bien à moi, et aussi les halètements, les mollets raidis par la crampe et l'haleine qui gelaient blanc sur un col dispensateur de démangeaison. Et j'allais. Je traversais un bras de mer aux algues prises dans une carapace de glace et de neige. Je longeais la plage gelée qui blessait mes pieds à chaque pas d'une difficile progression. Je traversais des dunes qui me furent quelques moments un refuge béni, puis de nouveau à découvert, bousculé par les rafales d'un vent chargé d'embrun, assourdi par les beuglements du ressac, j'allais toujours. Sur le perron glacé d'une masure solitaire, je m'affalais à bout de souffle. C'était la masure du capitaine Abiathar Gould. Il avait 87 ans, mais n'était pour autant ni sourd ni amorphe. Il vint m'ouvrir, me considéra du haut de sa taille et grommela. « Qu'est-ce que vous voulez ? N'aurez pas un peu d'agnole, des fois ?»« Non, je n'en avais pas. » Mais la conversation tourna autour de ce sujet, tandis que je cuisais à petit feu et retrouvais mes muscles auprès de son poil. Il n'y avait, dans son unique pièce, qu'une seule couchette avec des couvertures en vrac, des cache-nez et des bandes de sacs de jute en fait de literie. Il n'était pas dans mes intentions de passer la nuit en ce lieu. Il me fallait penser au retour. J'entrais dans le vif du sujet. « Capitaine, vous avez connu Jason Saunders ?»« Saunders ? J'ai connu un Byron Saunders et Gideon Saunders de Wellfleet, et aussi Cephas Saunders de Falmouth et Bessie Saunders, mais pas le Jason. » « Ah si, le père de Byron, peut-être. Mais oui, je m'en souviens parfaitement maintenant. Je devais avoir 8 ou 9 ans. Il est mort à l'étranger. J'étais mousse sur le Dancing Jig, la fois où il est allé à la pêche en mer. La seule fois. La pêche, ça n'était pas son fort. Non, mais vous rappelez-vous ? Rien. Je ne me rappelle rien. Jassy ne jouait jamais avec nous. Toujours le nez dans un livre. Il y en avait pour dire qu'il savait jouer des points. « Moi, je n'en sais rien. »« Pourtant, vous devez... »« Comment parlait-il, par exemple ?»« Comment il parlait ?»« Comme tout le monde, parbleu. » »« Mais ça n'était pas un pêcheur, comme nous autres. »« Ah oui. » »« Il m'a un jour tanné le cuir parce que j'avais déchiré des feuilles de papier sur lesquelles il avait écrit Dieu sait quoi. »« Je m'en étais servi comme bourre à fusil. »« Que vous a-t-il dit, cette fois-là »« Il m'a dit... » Tout bien pesé, il serait peut-être indiscret de relater ce qu'avait dit Jason en cette occasion. » Après quoi le capitaine se contenta d'ajouter « Mais avis que ça lui a valu d'avoir affaire aux copains. L'histoire s'est passée il y a un bout de temps. Mais, son regard brilla, ce dont je me souviens bien, c'est qu'il était plutôt empoté sur une goélette. Non, la pêche en mer, ça n'était pas son fort. » Quand je regagnais Kenwith, j'avais le nez gelé. Kenwith n'a pas eu le journal local avant 1877. Je n'en découvris pas davantage. Mais ce hiatus dans l'histoire littéraire fit de Jason Saunders mon fief personnel. J'en savais sur lui incomparablement plus que quiconque. Il était tout ensemble mon œuvre, mon ancêtre spirituel et mon fils bien-aimé. Sur l'importance et la noblesse de toute vie humaine, mon commerce spirituel avec Jason me donna une idée autrement élevée que mes contacts avec les oursons mal léchés qui me tenaient lieu d'élève. Je me demandais combien de Jason Saunders j'avais sacrifié à l'enseignement d'adolescents rétifs. J'en oubliais mes travaux sur Ben Jonson. J'ai été obsédé par Jason. Quand je la rencontrai à la réception de Monsieur le Principal en février, je ne sais pourquoi Quinta Gates me reprocha de l'avoir négligée. Sur le moment, j'ai cru à une simple taquinerie de sa part. Mais aujourd'hui, je n'en suis plus aussi sûr. Elle était un peu distante. Elle n'avait plus tout à fait cette franchise que je m'étais habitué à trouver avec elle, mais que m'importait. Arpentant les dunes du rivage avec le souvenir de Jason dans l'âme, je ne pouvais revenir à Quinta et à la discussion de telle ou telle sonate dans un crépuscule ouaté près des tasses de thé transparentes. Je fis don de Jason Saunders à l'humanité dans un article massu du Weekly Gonfalon. Sa plus grande partie en fut reproduite dans la page littéraire du supplément dominical au courrier de New York, avec un portrait de Jason et, je l'ajoute modestement, une photo de votre serviteur, une photo assez intéressante de votre serviteur en culotte de golf, assis près du tennis de Quinta. Après quoi, la gemme de New York s'empara de mon poète, sans mentionner mon nom ni mon article. Elle couvrit Jason de son aile et croassa, en guise de manchette pour un article qui tenait une page dominicale. « Une conspiration européenne du silence nous cache la mort du plus grand barde américain. » Ce larcin me piqua au vif, mais en même temps je fus amusé d'assister à la création d'un nouveau héros national mythique. La gemme narrait par le menu la prétendue épopée de Jason sur tous les océans du globe et le sauvetage qu'il réussit avec l'aide de son équipage d'une infortunée jeune vierge chrétienne enlevée par les Turcs à Tanger. Quant à l'abandon de sa femme et de son enfant, la gemme négligeait ce léger détail. Selon le rédacteur de l'article, son épouse éplorée aurait dit à Jason « Va-t'en où le devoir t'appelle ». Là-dessus, il l'aurait embrassé, lui aurait laissé une jolie fortune et serait parti avec bannière et musique en tête. mais le chef-d'œuvre de la gemme était l'interview du capitaine Abiathar Gould, dont vous avez pu apprécier tout à l'heure l'aimable talent de causeur. Dans la gemme, le capitaine Gould avait le souffle épique. Lisez plutôt cet extrait. Nous, les gars de Kenwith, on n'avait pas froid aux yeux pour ce qui est de naviguer sur ces rafiots à la manque. Mais le capitaine Jason Saunders, je vous le dis, c'était comme le bon Dieu pour nous. Pas un dans tout l'équipage qui aurait osé, ainsi qu'il l'a fait, plonger par-dessus bord, en plein hiver, un jour de tempête, pour sortir du bain de pauvre diable dont la barque de pêche avait chaviré. Et tranquille et doux avec ça, et toujours cherchant à s'instruire, et lisant ses livres de poésie entre deux quarts. Ah oui, c'était de beaux jours, les jours qu'on a vécu sur la brigantine Dancing Jig. Le reporter de la gemme avait lui apporté à Abiathar un tantinet de cette niole dont je ne m'étais pas muni avant de l'aller voir. J'étais, pour être sincère, j'étais inacadémiquement mari. Mon héros m'échappait et je voulais le reprendre. Je le repris. On ignorait ce qu'il était advenu de Jason après son départ pour la Grèce. Or, moi, je retrouvais sa trace, grâce au concours d'un ami archiviste paléographe affecté à la section Histoire européenne. Il me fut possible de passer au crible tous les documents concernant l'histoire de la Grèce durant les années 1853-1854. Je ne doutais pas que mon poulain sauvage découvrirait une brèche dans l'enclos aride du souvenir écrit. Nous pûmes établir qu'en 1854, époque où Français et Anglais occupaient le Pirée, un mystérieux lieutenant Jasmine Sandek devint à Athènes un héros populaire. Remarquez-vous la ressemblance? Jasmine Sandek, Jason Saunders. Notre romanesque génie avait ajouté à son terne nom yankee un soupçon de couleur locale. Personne ne savait juste qui était le lieutenant Sandek. Il n'était pas grec. Les Français disaient qu'il s'agissait d'un Anglais. Les Anglais d'un Français. Ayant dirigé une incursion de jeunes Athéniens bruyants dans les lignes françaises, il fut capturé et fusillé un continent. Un capitaine de bateau américain reconnut le cadavre du lieutenant Sandek comme celui d'un sien cousin. Il signa une déclaration dans laquelle il certifiait que Sandek n'était pas son patronyme, mais sans spécifier comment au vrai il s'appelait. Sa déclaration se terminait par ces lignes. « Mon cousin est natif de la ville de Kenbunkport, et beaucoup de gens le tenaient pour fou. » Ai-je besoin de souligner combien il avait été aisé pour le scribe grec de confondre Kenwith avec Kenbunkport? Aussi aisément que le misérable capitaine et cousin avaient confondu génie avec folie. Vous représentez-vous cette mort glorieuse de Jason? N'était-ce pas une fin plus accordée à son destin que tout autre? Moisir dans une voilerie, ou devenir épicier, ou pasteur, ou professeur adjoint? Le soleil de l'après-midi, Hélène étincelant sur un mur blanchi à la chaux, la mer violette, les collines hantées par Sappho, parsemées de marbre, et un jeune combattant, peut-être vêtu d'un uniforme invraisemblable, chapeau français, veste britannique écarlate, pantalon du Cap-Cod et bottes grecques, nonchalamment immobile et ne comprenant pas très bien l'importance de l'heure. Une rangée de soldats armés de longs mousquets, un feu de salve et l'argile fougueuse dont est pétri Jason va se fondre en une commune et fraternelle poussière avec celle du corps sculptural d'Hélène et des muscles d'Ajax. La relation de ces faits, je la livrai au public dans mon second article que publia The Gonfalon. Sur ces entrefaites, tout le monde se mit à discuter un peu partout du cas Jason Saunders. Le moment était venu de publier mon livre. En bref, mon ouvrage, fruit du travail d'une année, contenait tous les écrits de Jason et les biographies de trois générations de Saunders. Il eut un succès raisonnable et transforma la notoriété de Jason Saunders en renommée de bon aloi. Une entreprenante firme eut l'idée de fabriquer en grande série une reproduction de Jason en buste qu'on vit bientôt sur tous les murs d'école entre les portraits de Longfellow, Lowell et Washington. Il avait l'air si vivant qu'on l'aurait cru en chair et en os. New York, dans un cortège historique où étaient représentés les grands hommes d'Amérique, un intelligent jeune homme prit ses traits. Mon Jason s'entretenait avec Poe. Ce qui, bien sûr, ne correspond pas à la réalité puisqu'ils ne se sont jamais rencontrés. D'autre part, il fut utilisé par un écrivain comme personnage de roman. Un poète anglais célèbre, en visite chez nous, mentionna son nom non sans condescendance. Sa mort fut le sujet d'un tableau. une société cinématographique sans qui des possibilités de filmer sa vie, et c'est dans l'heure même où sa mort accédait à l'immortalité, qu'il fut brusquement assassiné. Le poison qui tua Jason une seconde fois avait été glissé dans une lettre au Gonfalon. Lettre émanant de Whitney Edgerton, docteur en philosophie et professeur de littérature anglaise à l'université de Melanchthon. Bien que je n'eusse jamais rencontré Edgerton, nous étions de vieux ennemis. Notre antipathie mutuelle avait pris naissance à l'occasion du compte-rendu sévère, mais juste de son édition critique de Robert Herrick. Edgerton avait été le seul à oser faire fire de son don. Dans une précédente lettre, dans Gonfalon, n'avait-il pas insinué que Jason aurait plagié le style imagé de la poésie chinoise, point de vue insoutenable, étant donné que Jason avait probablement toujours ignoré que les Chinois eussent une littérature, à part les pages de blanchisserie. Mais je ferais mieux de citer sa lettre. J'ai vu une reproduction d'un mauvais tableau intitulé « La mort de Jason Saunders », qui illustrait la fin de cet admirable jeune homme fusillé en Grèce. Or, c'est un fait que Mr. Saunders ne fut pas fusillé en Grèce. Il le méritait, mais il ne le fut pas. Jason Saunders n'était pas Jasmine Sandleg. Le travestissement de son authentique patronyme en un nom de famille aussi clinquant est une opération dont il aurait été capable. Mais il n'en a rien fait. Ce qui a préservé Jason de cette mort héroïque en Grèce durant l'année 1854, c'est que malheureusement, il a vécu de décembre 1853 à avril 1858 au pénitencier d'État du Delaware, où il purgeait une condamnation pour incendie volontaire et attaque à main armée. Sa poétique cellule du Delaware est le lieu géographique le plus proche de la Grèce où il ait jamais vécu. Veuillez agréer, etc. Whitney Edgerton. Le rédacteur en chef du Gonfalon me télégraphia le contenu de la lettre, mais trop tard pour que je puisse empêcher son impression, et une heure après, je faisais route vers l'état du Delaware en oubliant, je le crains, une invitation à dîner de Quinta. J'étais sûr de confondre cet Edgerton. Le directeur du pénitencier parut intéressé par l'objet de mon enquête. Il m'apporta une aide efficace en me donnant l'accès de ses archives. Nous les compulsâmes soigneusement, trop soigneusement. Nous y lûmes que Jason Saunders, de Kenwith, Massachusetts, marié, voilier de sa profession, avait été incarcéré au pénitencier en décembre 1853 pour incendie volontaire et attaque à main armée et qu'il y était demeuré plus de 4 ans. À la bibliothèque de Wilmington, je découvris dans un numéro de novembre 1853 d'un journal depuis longtemps défunt un article ainsi conçu. Mardi dernier, un acte d'une scélératesse inimaginable a été perpétré chez Mr. Palatinus, un très estimé fermier de la région de Christiansburg. Mr. Palatinus, en échange d'un coup de main, avait abrité et nourri un vagabond répondant au nom de Saunders. Le deuxième soir, l'individu, ayant trouvé de l'eau-de-vie cachée dans la grange et s'étant enivré, demanda de l'argent à Mr. Palatinus, le frappa, jeta la lampe sur le plancher et mit le feu au bâtiment. Il a été arrêté et passera en justice. On pense qu'il s'agit d'un marin du Cap Cod. Je ne mis pas une hâte particulière à communiquer mes trouvailles. Ce fut un correspondant de la GM de New York qui s'en chargea. Bon nombre d'autres hebdomadaires et de quotidiens reproduisirent ces révélations. Les portes de Jason disparurent des murs des écoles. Je retournai à l'université. Seule la foi de Quinta soutenait maintenant la mienne. Un soir, qu'elle se tenait assise près du feu, le menton reposant entre ses mains délicates, elle affirma. Peut-être y a-t-il eu une erreur? Cette remarque me donna une inspiration. Je la quittai, trop rapidement peut-être, mais elle est femme à comprendre et à pardonner toujours. Je regagnai à la course mes pénates avec un arrêt dans une cabine téléphonique pour mettre au courant mon ami archiviste paléographe. Il m'assura que Palatinus était un patronyme grec fort répandu. Remarquez sa ressemblance avec Palatinus. Ce que constatant, je me trémoussais d'aise dans la cabine téléphonique du drugstore et je frappais d'une main joyeuse ses cloisons sonores, juste à temps pour voir un de mes élèves entrer dans la boutique en quête d'une tablette de chocolat qui ricanait indécemment à mon adresse. J'aurais voulu m'éloigner d'un pas noble et paisible, mais je ne pus modérer mes pas impatients. Je commençais une nouvelle lettre au Gonfalon à 10 heures du soir, et ne la terminait qu'à 5 heures du matin, un froid matin. Je me souviens que je tournais en rond dans ma chambre, sans dignité aucune, que je jouais les équilibristes sur la barre en cuivre du pied de mon lit, non sans ridicule, que je tapais du poing mon bureau, que j'allumais et fumais goulûment maintes cigarettes. Dans cette lettre, je fis ressortir, et prouvai pratiquement, que le nom du fermier du Delaware n'était point Palatinus, mais Palatinos, individu de nationalité grecque. Il n'avait pu donner alors à Jason en échange d'un coup de main, pour la bonne raison que l'événement se situait en décembre, époque où le travail agricole était à son étiage. Non, ce Palatinos était un agent des révolutionnaires hélènes. On avait envoyé Jason de New York pour le rencontrer. J'espère, lecteur, que vous me suivez, n'est-ce pas? Imaginez avec moi l'entrevue. Notre jeune et ardent poète arrive, prêt à accepter de Palatinos n'importe quel ordre, si risqué soit-il. Et il découvre que Palatinos n'est qu'un traître, au service des Turcs. Assis dans la cuisine, près de la cheminée aux briques blanchies à la chaux, Palatinos observe le candide Yankee horrifié avec le cynisme venimeux de l'espoir international. Il propose à Jason d'espionner les Grecs d'Amérique. Anéanti, Jason trouve cependant assez de force pour aller se coucher. Toute la journée suivante, il résiste aux insidieuses manœuvres du traître. Mais Palatinos le gorge de brandy. Le poète est assis, plongé dans sa méditation. Soudain, il bondit sur ses pieds, attaque Palatinos en justicier. La lampe se renverse, la maison brûle en partie, et Jason, étranger à la région et sans amis qui vivent, est arrêté par l'inepte constable du lieu. Jeté en prison comme il le fut, Jason demeurait un aussi authentique martyr de la liberté que s'il avait été véritablement fusillé au cours d'un après-midi grec aux délicates couleurs. Ma reconstitution historique, publiée dans le Gonfalon, encore que je fusse alors trop affligé pour n'en tirer qu'une mince fierté, fut largement reproduite non seulement dans la presse américaine mais aussi à l'étranger. Le Mercure de France en fit mention, qui du reste écorcha mon nom d'inexplicable façon. Je m'attachai ensuite à recomposer la vie de Jason postérieurement à sa sortie du pénitencier, car je ne savais où et quand il était mort effectivement. Je travaillais ferme à résoudre ce problème lorsque fut publiée une nouvelle lettre de Whitney Edgerton, l'assassin secret de Jason. Il eut le front de prétendre que le nom de Palatinus n'était pas Palatinos, que c'était bien Palatinus, que l'homme n'était pas grec, qu'il était suédois. J'écrivis à Edgerton, lui demandant d'exposer ses preuves, ses sources d'informations. Il ne me répondit pas. Il ne répondit à aucune de mes 6 lettres. Le Gonfalon annonça à ses lecteurs qu'on l'avait abusé quant à Jason et qu'il ne publierait rien de plus sur son sujet. Ainsi donc, Jason Saunders était assassiné pour la 3e fois et pour de bon ce coup-là, semblait-il. Tremblant, affaibli et désargenté par mes explorations au Cap Cod et dans le Delaware, vertement prié par le censeur de m'appliquer davantage à instruire mes élèves et de mettre un terme à ces tentatives fâcheuses pour me hisser jusqu'à la notoriété, je m'enlisais dans mon travail pédagogique avec toutes les apparences d'un vaincu. Mais la soif de savoir où et quand Jason était effectivement mort ne m'avait pas lâché un instant. Peut-être avait-il vaillamment combattu au cours de la guerre de sécession, mais comment le savoir? C'est ici que prend place la plus extraordinaire aventure de ma lutte au service de Jason Saunders. J'allais prendre le thé chez Quinta. Je me suis quelquefois demandé jusqu'à quel point je n'ai pas quelque peu lassé Quinta avec mes spéculations historico-littéraires sur Jason. Mon intention n'était point de l'ennuyer avec mon héros. J'essayais de me comporter en conséquence, mais je demeurais incapable de penser à autre chose, et elle seule faisait preuve de patience avec moi. Comment m'y prendre pour contraindre Edgerton à dire tout ce qu'il sait? Soupirai-je. Allez le voir, lança nerveusement Quinta. Voyons, vous savez bien que je n'en ai plus les moyens. J'ai dépensé toutes mes économies et Edgerton habite au fin fond du Nebraska. Elle quitta la pièce avec une vivacité qui me choqua et revint pour me tendre un chèque de $300. Les Gates sont gens plus qu'aisés, mais je ne pouvais naturellement pas accepter ce don en argent. Je secouai la tête. « Je vous en supplie, » s'écria-t-elle d'un ton sec, « vidons l'abcès. » L'espoir remplit soudain mon cœur. « Vous croyez donc en Jason ?» J'avais imaginé qu'il vous était presque indifférent. « Je... » commença-t-elle. Mais elle s'interrompit, hésita, puis déclara très vite « N'en parlons plus, je vous en prie. Et maintenant dites-moi, ne pensez-vous pas que c'était une faute quand l'orchestre a joué la symphonie de... » J'eus un entretien aussi peu agréable que possible avec le censeur avant de prendre le train pour Melanchthon dans l'état du Nebraska. J'avais un plan. Nous approchions de la fin de l'année scolaire 1919-1920. Je me ferais passer pour un garçon qui, ayant travaillé quelque temps comme employé de bureau, désirait passer une licence S-lettres, mais aurait d'abord à refaire les cours oubliés depuis sa sortie de l'université. Et sur ce point, j'aurais voulu demander au célèbre docteur Whitney Edgerton ses conseils éclairés et quelques leçons particulières. J'aurais assez d'astuces pour le convaincre de me prendre en pension chez lui. Un jeune professeur de l'âge d'Edgerton devait avoir besoin d'argent. Une fois installé à demeure, il me serait facile de fouiller son bureau et d'y trouver quelques documents historiques ou quelques lettres lui avaient apporté la secrète connaissance qu'il possédait sur la biographie de Jason Saunders. Je pris Smith comme nom de guerre, procédé assez ingénieux, il se peut, étant donné que c'est un patronyme banal, et par conséquent peu propre à éveiller l'attention. En somme, tout ce plan était raisonnable, il aurait dû se révéler d'une réalisation aisée. Mais arrivé à Melanchthon, et m'étant aussitôt fait indiquer la maison d'Edgerton, je me rendis compte qu'il était, non pas un pauvre diable, mais un homme d'une richesse assez gênante. Car sa demeure était un monstrueux bâtiment de style géorgien, tout en colonnes blanches, en lucarnes et en balcons de fer, flanqué d'une terrasse de briques et environné de jardins classiques. À contre-cœur, je fis mon entrée et me trouvai face à face avec Edgerton. C'était un homme assez jeune, trapu, l'air suffisant, au vert de lunettes sans monture apparente. Son cabinet de travail était luxueux. Des rideaux de velours aux fenêtres, un vaste bureau, des rayons à livres pris dans l'épaisseur du mur, où l'on pouvait voir nombre d'œuvres que j'aurais bien voulu posséder. Le reste de ces appartements était aussi luxueux, tout en blanc et en bleu tendre, à côté desquels mes deux pièces et leur ameublement hétéroclite auraient paru misérables. J'avais imaginé que j'aurais un sentiment de haine à dissimuler, au lieu de quoi j'éprouvais de l'embarras. En tout cas, les dieux en avaient décidé ainsi. Moi, pauvre érudit qui avait créé Jason, je me trouvais en présence du dilettante boudeur et tiré à quatre épingles qu'il avait poignardé. Tout en jetant des regards furtifs autour de moi, je vis part à Edgerton, avec peut-être moins d'habileté oratoire que prévu, de mon désir d'être guidé par lui dans mes études. « Vous me faites beaucoup d'honneur, répliqua-t-il, mais je crains que ce ne soit impossible. Je pourrais vous recommander à... Au fait, quelle était votre université ?» Dieu seul sait pourquoi ce nom me sautait à l'esprit, mais je me rappelais un obscur et provincial établissement, Titus College, dont j'ignorais tout. « Ah, vraiment ? Savez-vous que j'y ai fait mes premières armes pédagogiques ? Je n'en ai plus de nouvelles depuis un siècle. Comment va, monsieur le principal Dolson ? Et Mrs. Sibyl ? Oh, ce cher et vieux Carterworthy ! Que l'état-major du Titus College me pardonne ! J'attribuais généreusement à M. le principal Dolson un accès de fièvre, et j'affirmais que Carterworthy, qu'il fût professeur ou concierge ou entrepreneur local des pompes funèbres ou je ne sais quoi, s'était pris d'une passion pour le golf. Quant à Mrs. Sibyl, elle m'avait invité à un thé, il y avait seulement quelques mois. Edgerton ne cacha pas un certain étonnement. Je me suis souvent demandé si en réalité Mrs. Sibyl offrait plus volontiers du thé, du gin ou du vitriol. Edgerton se débarrassa de moi. Il me mit dehors avec beaucoup d'amabilité. Il sourit, me donna le nom d'universitaire consciencieux, m'hypnotisa jusqu'à la porte et ne m'invita pas à revenir. Je m'assis sur un banc de la gare de Melanchthon. Apparemment, je n'étais venu des bords de l'Atlantique au Nebraska que pour m'asseoir sur ce banc boiteux et contempler un citoyen indésirable d'outre-Missouri craché dans un plat à sciure. Je passai la nuit dans une taverne ou un hôtel sans agrément, et le lendemain, je rendis de nouveau visite à Edgerton. J'avais escompté que ma seule vue le remplirait d'ennui. J'étais dans le vrai. Je lui demandai la permission de jeter un long coup d'œil à sa belle bibliothèque. Il m'y conduisit et m'y laissa seul, la patience n'étant pas son fort, en me suggérant de vérifier quand je m'en irais si la porte s'était bien refermée. Quelqu'un pouvant entrer d'un instant à l'autre, je ne voulais pas courir le risque d'inspecter hâtivement son bureau et son jeu ingénieux de meubles à tiroirs à la recherche de renseignements relatifs à Jason. Mais je trouvais moyen, tout en faisant mine de lire, de desserrer suffisamment avec la pointe de mon canif les vis des cliquets d'une fenêtre à guillotine pour pouvoir en soulever de l'extérieur le châssis mobile. Mon intention était de cambrioler le bureau d'Edgerton. Cette nuit-là, un peu après minuit, je quittai ma chambre, descendis dans le hall de l'hôtel, bâillai ostensiblement, fis mine de parcourir les illustrés déchirés qui s'y trouvaient, déclarai entre deux soupirs à l'employé de garde tout endormi. « Ma foi, je vais faire un petit tour avant de monter me coucher. » Et je filai. Dans la poche intérieure de ma veste, j'avais un tournevis et une petite lampe électrique achetée au cours de l'après-midi chez un cacaillier. Je savais, pour avoir mis parfois le nez dans certaines littératures d'imagination, que les cambrioleurs emploient utilement ces lampes électriques, tournevis et autres pinces, monseigneur. Et tandis que j'arpentais furtivement les rues, je m'efforçais de prendre une expression féroce pour intimider quiconque eût tenté d'interrompre mon entreprise. À cette fin, je mis mes lunettes dans ma poche et bousculai mon nœud de cravate. Peut-être n'avais-je plus mes esprits coutumiers. Pour le renom de Jason Saunders, j'étais prêt à risquer la totalité d'une réputation qui m'avait été précieuse. C'est ainsi que moi, professeur écouté de mes élèves, je glissais sous les peupliers, traversais une pelouse sur la pointe des pieds, rampais sous une clôture métallique et me retrouvais dans le jardin de Whitney Edgerton. Jardin bardé de grilles et de murs de toutes parts, sauf sur la rue. C'est par là qu'il me faudrait donc m'enfuir en cas d'alerte, vers la zone de la rue illuminée par un réverbère, pour être ainsi magnifiquement repéré. Soudain, je me pris à trembler, incapable que j'étais de croire à la réalité de ma situation. Non, je ne pouvais faire cela. J'étais menacé de tous côtés. N'y avait-il point quelqu'un qui m'épiait à la plus haute fenêtre de la maison? Et ce craquement tout à coup derrière moi, et ce rideau du bureau, n'avait-il pas bougé? Moi, qui n'avais jamais adressé de ma vie la parole à un policeman, sinon pour lui demander ma route, je m'étais lancé dans une aventure et m'exposais en tant qu'intrus à être traité comme un vagabond de droit commun, à me couvrir de honte, à me faire malmener. Sans enthousiasme, je m'avançais vers les fenêtres du bureau, mal à l'aise, comme sous l'œil imaginaire d'invisibles témoins. Je ne me souviens pas d'avoir craint un coup de fusil ou de revolver. Le sentiment qui m'habitait n'avait pas cette précision. Il était plus démoralisant aussi. C'était la présence réprobatrice de toute une civilisation qui me paralysait, école, église, banque, appareil judiciaire et quinta. Pourtant, j'arrivais jusqu'à la fenêtre médiane du bureau, celle dont j'avais desserré les vis. Non, je ne pouvais pas faire cela. Mon plan m'avait, en imagination, semblé facile à réaliser. Mais me glisser dans cette pièce, dans l'obscurité, face à face avec l'inconnu, escalader l'appui de la fenêtre comme un galopin de première année, chaparder comme un galvaudeux. Je touchais le châssis de la fenêtre. Je crois même que j'essayais de le soulever. Ce fut au-dessus de mes forces. Le dégoût me galvanisa. Moi, voler le voleur qui avait assassiné Jason Saunders, jamais. J'avais le droit de connaître les sources de ces informations. J'en avais le droit imprescriptible. Grand Dieu, je les lui ferais sortir de la gorge, et si besoin, je battrais et tuerais ce snob méprisable. Je tournai le coin de la maison à la course, me suspendis au bouton de la sonnette et frappai les panneaux de la porte à coups de poing avec la paume de mes mains endolories. Une lumière. La voix d'Edgerton. « Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? » « Vite, un accident d'auto, il y a un blessé !» hurlai-je. Il ouvrit la porte. Je me jetai sur lui, le repoussai dans le hall et lui demandai. « Donnez-moi tous les documents que vous possédez concernant Jason Saunders. » Et je remarquai alors qu'il tenait un revolver. Je crains d'avoir maltraité son poignet à ce moment-là. Un peu plus tard, quand je l'ai installé dans le fauteuil de son bureau, je l'interrogeai encore. « D'où tenez-vous vos renseignements? Et où Saunders est-il mort? Ah, c'est vous l'imbécile qui a déclenché toute cette ânerie sur Saunders ? » fit-il entre deux halètements. « Soyez assez aimable pour m'écouter, voulez-vous? Je vais être en regret de vous tuer, si vous ne répondez pas à mes questions, et sur le champ. Quoi? Comment? Dites donc !» Je ne me souviens plus de la suite. Curieux, La migraine m'assaille chaque fois que je fais un effort pour me rappeler cet épisode. Sans doute ai-je dû le frapper, encore que cela semble étrange, car il était certainement plus fort que moi et mieux nourri. Mais je l'entends encore qui lançait d'une voix suraiguë. « C'est un attentat, vous êtes fou allié !»« Mais puisque vous insistez, sachez que je tiens tous mes renseignements sur Sanders du clergyman Peter Williams de Yancey dans l'état du Colorado. Montrez-moi ces lettres. Est-ce indispensable ? Croyez-vous que j'ai confiance en vous ? C'est que je n'ai ici qu'une lettre de lui. Les autres sont dans le coffre de ma banque. Williams m'a écrit pour la première fois après lecture du billet où je critiquais vos articles. Il m'a fourni nombre de détails. Il a, semble-t-il, de bonnes raisons pour haïr la mémoire de Sanders. Voici ce dernier épître qui contient un supplément de faits sur la délicieuse carrière poétique de Sanders. Un coup d'œil suffit à me confirmer ces dires. En tête de la feuille de papier que me tendit Edgerton, je lus, imprimé en caractères inartistiques, les mots suivants. Révérend Peter F. Williams, congrégation de la confrérie du Renouveau, Yancey, Colorado. Et plus bas, une phrase que voici. Avant cela, la conduite de Sanders vis-à-vis des femmes de Kenwith fut si ignominieuse qu'on ne le condamnera jamais assez. Je tenais le serpent d'où Edgerton ne faisait qu'instiller le venin. Je reculais et quittais Edgerton. Il eut alors une réflexion stupide qui montre qu'il était au moins aussi troublé que moi. Adieu, lieutenant Sandeck. Certain qu'il me ferait appréhender si je retournais à mon hôtel, y eussé-je mis les pieds seulement le temps de rassembler mes effets, je décidai aussitôt d'abandonner ma valise et de quitter la ville en hâte. Dieu merci, je n'avais pas emporté dans ce voyage mon autre costume ni la mallette garnie dont Quinta m'avait fait présent. N'empruntant que des rues à l'écart, je gagnai la campagne par la voie du chemin de fer. Je me félicitai alors d'avoir sur moi la lampe de poche qui, au moment où je me trouvais devant la fenêtre du bureau de Gilberton, pouvait paraître ridicule. Je m'assis sur le remblai. Je garde présent le souvenir pénétrant du mâche-fer et du ballast. Je vois encore la pile détrempée des troncs d'arbres pourrissants près de la voie ferrée, sur laquelle ma lampe jeta un rayon laiteux quand je l'allumais pour étudier la lettre de Peter Williams. Aussitôt, j'entrai en possession d'un indice d'importance. Peter Williams était aussi le nom de ce fils du révérend Abner Williams, de Kenwith, que Jason avait souvent rossé. Je souhaitais qu'il l'eût rossé plus souvent et plus copieusement. Le révérend Abner avait jeté Jason hors de son église. Tout cela avait naturellement déclenché une vendetta entre Jason et les Williams. Peut-être existait-il des raisons supplémentaires à cette haine, probablement une rivalité amoureuse. Or, la lettre du révérend Peter Williams à Edgerton était tapée à la machine. Ce modernisme, de la part d'un curé de village, indiquait qu'il s'agissait d'un homme qui n'avait pas plus de 40 ans. N'y avait-il pas quelque logique à supposer que Peter Williams du Colorado était le petit-fils de Peter Williams de Kenwith et qu'il avait utilisé certains renseignements depuis longtemps en possession du clan des Williams pour attenter au souvenir de l'ennemi de son grand-père? À l'aurore, j'avais sauté dans un train de marchandises et dans l'après-midi du lendemain, je descendais à Yancey, état du Colorado. Je découvris le presbytère de secte du Renouveau, résidence du révérend Peter Williams. C'était un petit cottage juché sur la crête d'une colline. Je grimpai jusque-là, ma vigueur décuplée par la rage. Je frappai à la porte et me trouvai face à une gouvernante teutonne au visage inexpressif. Je lui demandai à voir Mr. Williams. Introduit dans son bureau rustique, je vis un homme, non pas de 40 ans ainsi que sa lettre donnait à entendre, mais étonnamment vieux. Un maître d'école vénérable, aussi ferme sur ses jambes qu'un bison, avec une immense barbe blanche. Il était assis dans un profond fauteuil à bascule près du poêle. « Eh bien, s'enquit-il, ai-je l'honneur de parler au révérend Peter Williams ?»« En personne. Puis-je m'asseoir ?»« Oui, je vous en prie. » Je m'assis calmement sur une petite chaise minable. Ma fureur s'était assouvie en constatant que j'avais affaire non à un petit-fils du rival de Jason, mais à l'authentique Peter Williams original. Je contemplai un homme que les poings de Jason Sanders avaient honoré de leur coup. C'était un serpent de trop de prix pour ne pas user de ruse avec lui. D'une voix filiale, je poursuivis. On m'a dit, j'ai passé un certain été au Cap Cod. Qui êtes-vous, jeune homme ? Smith, William Smith. Eh bien, je vous écoute. On m'a dit que vous étiez originaire du Cap, de Kennewick. Et alors ? Je me demandais si vous n'étiez pas le fils du révérend Abner Williams, qui fut le curé de Kennewick. Je suis son fils. Par la chair et par l'esprit, je suis le fils de ce saint homme. Avec précaution, avec beaucoup de précaution, sur le ton de la vénération, je procédais d'une manière allusive. Donc, vous avez dû connaître un certain personnage dont il a été question dans la presse. Un nommé Jason. Voyons, Jason Sandwich, je crois. Jason Sanders. Oui, monsieur, je l'ai connu. Je ne l'ai que trop connu. Il n'a jamais existé de plus vil scélérat. Un ivrogne, un coléreux, un homme fermé à la grâce intérieure. Il résume tout ce que je cherche à détruire. La voix de Williams prit les intonations profondes et vibrantes d'un chant religieux dans une cathédrale. Je le haïssais, mais il ne laissait pas de m'impressionner. « Il y a une chose, hasardai-je, sur laquelle je me suis souvent interrogé. On raconte que ce Sandors n'est pas mort en Grèce. Je me demande où et quand il a pu mourir. » Le vieillard chenu se mit à rire. Il rit de si bon cœur que ses yeux s'enfuirent dans un nid de rides. Il rit tant qu'il en fut tout secoué. « Vous êtes toqué, mais vous ne manquez pas d'obstination. Je sais qui vous êtes. Edgerton m'a prévenu de votre arrivée par télégramme. Alors, vous aimez Jason, hein ?»« Oui. C'était un voleur, un alcoolique. Et moi, je vous affirme que c'était un génie. C'est du moins à votre avis. Écoutez, pour quelle raison vous êtes-vous ainsi acharné sur Jason ? Il y a eu autre chose que la raclée qu'il vous administrait quand vous étiez tous deux gamins. Voyons, comment avez-vous découvert ce qu'il était advenu de lui après son départ de Kennewick ? » Le vieillard me considéra d'un œil absent, comme s'il avait regardé quelque chétif insecte, puis avec une lenteur d'élocution qui me fit bouillir. « Je sais ce qu'il advint de lui parce que dans sa prison... » Il s'arrêta, bâilla, se frotta la joue. « Dans sa cellule, j'ai combattu l'esprit du mal qui l'habitait. » « Et vous l'avez vaincu ?»« Oui. » « Mais ensuite, quand est-il mort ?» demandai-je. « Il n'est pas mort. » « Quoi ? Vous voulez dire que Jason vit encore ?» Il a 95 ans. Voyez-vous, je suis, c'est-à-dire que j'étais jusqu'au jour où je me suis rebaptisé Williams, je suis Jason Sanders, répliqua-t-il. Il ne me resta plus durant 3000 kilomètres, par car, omnibus et train express, immobile dans des couchettes de wagon-lit et silencieux sur des sièges de wagon-fumoir, qu'à fuir à tire-d'aile vers la tiède présence consolatrice de Quinta Gates. Ainsi s'achève « Mort d'un immortel » par Sinclair Lewis.